Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, comme chaque jour, pour vous parler de football. Et nous évoquerons aujourd'hui des ogres insatiables et impitoyables. Le Bayern de Munich a remporté le 105e Klassiker à Dortmund à l'issue d'un match un peu fou avec 5 buts et aussi une polémique autour de l'arbitrage. Très attendu, les deux buteurs vedettes des effectifs ont été au rendez-vous de ce match au sommet du football allemand. Les Milanais aux commandes du Calcio, le Milan AC et l'Inter de Milan ont relégué Naples à la troisième marche du podium sur lequel l'Atalanta Bergame aimerait bien se hisser aussi. Les Italiens savourent un championnat très disputé où la Juventus ne fait plus vraiment sa loi, soupçonnée même d'être hors la loi. Les sang et or, tout feu, tout flamme, le RC Lens a tenu en échec les stars du PSG en montrant un football enthousiasmant prôné par son entraîneur Franck Haes. Et grâce notamment au buteur d'un jour, l'ivoirien Seko Fofana. Les Verts, eux, sont à Puel. L'entraîneur-manager Claude Puel a été mis à pied par les dirigeants du club de Saint-Étienne. Et pour évoquer les sujets du jour, aujourd'hui, un retour dans Radio Foot. Karine Galli, bonjour.
Coucou Annie, coucou à
tous. Tour de l'Europe, faites le tour de France et de temps en temps vous faites escale dans notre studio.
Et demain, direction l'Allemagne, ça n'arrête jamais.
Ça n'arrête jamais. Bon, bon courage en tout cas, couvrez-vous parce que.
Oui, à Wolfsburg, a priori, tropical, ça peut piquer. Hein.
Bonjour Marc Livra.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Tout va bien ?
Oui, très bien. Moi, demain, je suis à Paris, à la maison tranquille. Je regarderai Karine Galli.
En train de me geler.
Sûrement.
En direct.
En direct,
télé.
Bah oui.
Bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
David Finzel et Laurent Salerno sont là aujourd'hui, de retour à Radio Foot International. Et toute l'équipe vous dit donc, Radio Foot, c'est parti.
So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand.
Tout est en place, mesdames, messieurs, pour vivre le très grand moment attendu. Premier Classica de cette saison 2021-2022. Le Borussia Dortmund, deuxième à une petite longueur du Bayern Munich.
Natürlich, Erling Haaland.
Et à l'arrivée, il y a cet homme, Erling Haaland, le phénomène norvégien, frappe une première fois. C'est énorme, c'est monstrueux, et le Borussia Dortmund est de retour. Un penalty. Robert Lewandowski pour marquer ce 105e Classica de la Bundesliga. Il était parti bon côté, Gregor Kobel, mais ça va au fond.
Nabil Abou, Robert Lewandowski.
Et le Bayern reprend l'avantage, 3-2.
Impitoyable bavarois, un match au sommet donc de cette 14e journée qui promettait samedi soir dans un stade de Dortmund où ne se trouvaient que 15 000 personnes au lieu des 67 000 attendues, mais évincées à cause du retour de la pandémie en Allemagne. Et le choc de la Bundesliga a donc tenu ses promesses, match enflammé. Avec au total donc 5 buts, dont 3 pour le Bayern. L'équipe de Bavière remporte son 7e classiqueur consécutif et conforte sa première place en championnat. Le Borussia Dortmund étant juste derrière, mais déjà à 4 points. Le Bayern Munich, Jean-Philippe Bouchard, est-il vraiment le plus fort cette saison? Parce qu'un seul point séparait les deux équipes avant le coup d'envoi.
Oui, c'était un peu la finale pour le championnat d'automne.
Oui, exactement.
Entre les deux premiers. Et c'est vrai qu'en plus, juste avant, le Bayern s'était un peu troué, avait laissé des points en route et qui avait donné l'occasion à Dortmund de revenir à un point. C'était à Dortmund, même si tout le public, les 80 000 personnes n'étaient pas là. Mais bon, il y avait quand même...
L'avantage du domicile, théoriquement.
L'avantage d'être à domicile. Mmh. Et le Bayern l'a emporté de façon... Alors, un petit peu pittoresque avec ce penalty accordé par la VAR, mais quand même à dominer ce match parce qu'il faut pas, enfin ils ont, Dortmund a pris l'avantage, donc le Bayern a revenu, s'est remobilisé, enfin bon voilà, et Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, disait qu'ils ont beaucoup mieux géré émotionnellement le match. Et je pense que c'était vraiment la clé. Parce que là, il y a une emprise du Bayern sur ce classiqueur, sur ce dernier, sur ce match au sommet.
En 7 consécutifs.
Voilà. Et ils ont pris une option importante pour une nouvelle. Alors, je ne sais pas, ça va être la combienième de suite pour le Bayern.
10e.
Voilà, c'est monstrueux. Mais
10e titre.
Le Bayern continue d'écraser la Bundesliga.
Marc, c'était le premier classiqueur de Nagelsmann.
Ouais.
Et on peut dire qu'il s'en sort bien parce que justement, son début de championnat, il est évidemment scruté à la loupe par les dirigeants. Et ce n'est pas un Bayern qui écrase déjà tout jusqu'à cette 14e journée.
Ce n'est pas un Bayern qui écrase tout, c'est seulement deux défaites depuis le début de saison. Alors, il y a eu une débandade en 16e de finale de Coupe d'Allemagne où ils en ont pris 5 ou 1. Après, je crois qu'à Augsbourg, ils perdent aussi.
Deux grosses défaites comme ça.
Mais après, c'est une machine. Dortmund, aujourd'hui, a 4 défaites, dont 2 nuls, il me semble, alors que le Bayern ne fait qu'un nul. Le Bayern est une machine. Alors, nouveau coach qui arrive, il y a une philosophie de jeu qui a été mise en place et qu'on ne va pas lâcher. Et qu'on ne lâchera jamais parce que ça fonctionne comme ça. Quand on recrute certains joueurs, on sait pourquoi on les recrute. On prend des joueurs dont on a besoin. On prend des profils de joueurs.
Mais c'était un pari. C'était un pari, même s'il faisait ses preuves.
C'est un pari, c'est l'ADN du Bayern. Et si on rentre dans l'ADN du Bayern, on est capable d'entraîner le Bayern de Munich. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Mais aujourd'hui, il possède le meilleur joueur du monde, qui lui est sur des... Je parle du vrai, hein, du Lewandowski. Voilà, je ne parle pas du faux.
Les Allemands le considèrent aussi comme le meilleur du monde.
Ce qui me rassure, c'est que même Messi a fait honneur. Enfin, il a dit qu'il faut lui fier quand même un ballon d'or.
Bon,
enfin, voilà, c'est pour dire. Mais aujourd'hui, cette équipe-là, je pense qu'elle a besoin de ce genre de rencontre pour prouver qu'elle est encore au niveau, qu'elle fait la différence.
C'est un autre Bayern Munich cette saison pour vous, Karine ?
Moi, je trouve que c'est toujours une machine, un rouleau compresseur. Honnêtement, quand tu regardes le match samedi, tu es fatigué à la fin. Tellement il y a de l'intensité, tellement il y a du rythme. Alors, tu es juste dans ton canapé en train de profiter du match. Et pourtant, tu es lessivé à la fin. Ça allait des deux côtés. C'était exceptionnel. Moi, la seule chose qui m'inquiète quand même dans ce Bayern, effectivement, c'est une équipe offensivement qui est parfaitement huilée. C'est la défense. Et finalement, c'est quand même une équipe qui prend pas mal de buts. Et il y a encore un joueur qui s'est illustré négativement. C'est quand même Upamecano. Alors, en équipe de France, on voit qu'il est extrêmement frileux. Pour l'instant, il n'a pas endossé encore le costume bleu. Et avec le Bayern Munich, il y a parfois des grosses erreurs. Et là, il n'a pas été encore au rendez-vous. Alors, effectivement, si tu regardes Hummels de l'autre côté, qui fait que des boulettes, c'est rédhibitoire. Mais pour le Bayern Munich, il y a quand même un problème de défense. Je trouve que la défense n'est pas à la hauteur de leur milieu de terrain et de leur attaque. Mais ça reste une machine de guerre qui sera un candidat à la victoire finale aussi en Ligue des Champions. J'ai aucun doute là-dessus. C'est magnifique à avoir joué. Ça fait partie des 3-4 plus belles équipes d'Europe à avoir joué.
Oui, et ce rendez-vous du classiqueur en plus, hein, qui est quand même le match alors peut-être pas, peut-être pas aussi populaire ou aussi fameux ou aussi connu que le classico espagnol. Peut-être sous-côté d'ailleurs ce classiqueur, Jean-Philippe ?
Ah ben, je ne sais pas. En Allemagne, ce n'est pas sous-côté. Hein.
Non,
c'est vraiment le rendez-vous
mais sur
de l'année.
La scène européenne,
quand les calendriers sortent, ce que regardent les supporters, c'est la date
du
Bayern Dortmund. C'est vraiment le match au sommet. Après, que le championnat allemand soit un petit peu en dessous des radars par rapport à la Première Ligue ou la Liga espagnole, c'est vrai. Mais on en parlera tout à l'heure avec l'Italie, mais les zones, le centre de l'Europe se déplace. Le centre de l'Europe du foot se déplace selon les années. Et là, on voit bien qu'il penche quand même vers l'Allemagne en ce moment. Hein. On le voit avec tous les entraîneurs allemands. Il y a une école allemande de l'entraînement.
Les gardiens allemands
aussi. Parce que
aussi.
Le Bayern reste au sommet, mais les entraîneurs changent. Et la philosophie de jeu reste, le club reste, fait confiance à ses anciens joueurs. Là, c'est Oliver Kahn maintenant qui est aux manettes. Enfin bon, voilà, c'est quand même.
C'est surtout un exemple de gestion. Bayern.
Ouais, une entreprise qui a été mise en place dans les années 70, alors que le Bayern allait mal. Hein, quand il a été repris par ses anciens joueurs, il n'était pas au mieux. Et ils ont installé cette philosophie. Ils s'y tiennent. Et c'est remarquable.
Oui, on sait qu'il y a des années d'attente pour devenir sociaux ou abonnés hein, dans ces clubs. Et puis, c'est aussi le rayonnement de tous ces clubs allemands.
Mais ce que dit Karine est important, parce que pour moi, la défense aujourd'hui d'une équipe du Bayern, même si on est moyen, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que, franchement, ils ont tellement une force offensive qui vous fait peur dès le départ.
On va y venir.
Donc, si vous voulez, on peut comparer à Paris, qui aujourd'hui, Paris, si Mbappé joue... Ben vous pouvez même me mettre à moi derrière, si vous voulez. Mais non, mais c'est Paris est très moyen défensivement. Paris est premier du championnat. Paris, alors en Ligue des Champions, OK, ils vont sortir, mais on peut se permettre d'avoir des joueurs très moyens parce que, alors je ne dis pas que Upamecano est moyen, je pense qu'en équipe de France, avec un Kanté devant et des joueurs importants, il va retrouver son niveau. Mais c'est vrai qu'avec l'Allemagne, vu que ses latéraux montent énormément et que des fois c'est un contre un, deux contre un, ben, allons-y gaiement, mais de toute façon, on va marquer des buts. C'est pas grave
c'est
du tout.
But.
Et quand on voit les stats, il y a 48-52, nombre de passes, on est à 480 passes sur 520 passes. Tout est très très proche, c'est pour ça que ça ne s'est jamais arrêté, c'est un ping-pong
voilà,
permanent.
Que c'est un spectacle partagé.
Ah, mais c'est prévisible et on ne peut pas avoir une équipe qui va fermer, même Manchester City aujourd'hui, avec Ruben Diaz derrière, avec même Stone ou avec... ça prend souvent des buts parce que ça attaque énormément et puis des fois ça se fait avoir en contre.
Et d'ailleurs Nagelsmann s'adapte à ça aussi, à cette réalité d'une défense un peu faible. Ouais. C'est-à-dire qu'il a mis en place un 4-2-3-1 maintenant, qui est très offensif, alors que normalement le Bayern joue en 3-5-2 historiquement et l'Allemagne joue plutôt en 3-5-2 globalement. Et là, spécifiquement parce que bah, il sait que même Pavard c'est pas une assurance tout risque.
Non,
s'il
je confirme.
Voilà, donc là il a ce système-là qui est un peu plus sûr, mais qui permet de lâcher les chevaux offensivement.
Alors la question sur cette victoire quand même en dernier instant du Bayern Munich, enfin dans la fin du match, est-ce que l'arbitrage a sensiblement modifié le résultat? Est-ce qu'il y avait vraiment, puisque c'est un pénalty hein, qui donne la victoire au Bayern Munich, les jaunes et noirs ont estimé d'abord qu'il y avait eu un pénalty oublié sur un de leurs joueurs, Marco Reus, et puis Erling Haaland s'est mis en colère à la fin du match, alors avec une certaine retenue pour éviter la sanction, mais par contre, le jeune milieu de terrain, il n'a que 18 ans, joue de Bellingham, et bien lui, il a fustigé l'arbitre de la rencontre.
Pour moi, il n'y a clairement pas penalty. Hummels ne voit même pas la balle. Il tombe alors qu'il est au duel. Si vous regardez un grand nombre de décisions durant la partie, qu'est-ce qu'on peut attendre si vous donnez la rencontre la plus importante d'Allemagne à siffler à un arbitre qui a truqué des matchs dans le passé?
Alors, accusation de tricherie, du coup, il y a une enquête qui vient d'être ouverte.
C'est pas une accusation de tricherie, c'est la réalité. Il a été condamné, cet arbitre, par le passé, c'est ça qui rappelle.
Non, mais il l'accuse d'avoir triché là, comme il l'aurait fait.
Il rappelait son passé. Oui. Mais moi, je trouve ça dingue que pour un tel choc, on mette un arbitre qui a un tel passé. C'est-à-dire qu'il a un passé, il a été condamné, il a payé,
il avait notamment touché
300 euros. Dis donc, je savais pas qu'on pouvait être corrompu pour seulement 300 euros en Allemagne.
Il n'était qu'arbitre adjoint à l'époque.
Oui, non, mais bon, 300 euros en Allemagne, j'ai trouvé que le prix de la corruption était très faible. Mais bon, c'est son rire. Je trouve ça lunaire qu'en fait, un arbitre qui a été sanctionné, qui a été
suspendu 6 mois,
suspendu, qui a été condamné, donc c'est une réalité, puisse 2005. Arbitrer un tel match. Même si c'était il y a longtemps, je ne dis pas qu'il n'a plus le droit d'arbitrer, mais enfin, on est là en train de faire la promotion de ton championnat. C'est le choc. C'est un
tout le monde regarde.
C'est un Barça-Real dans les plus grandes années, etc. Le Dortmund-Bayern, tout le monde le veut. Et donc, tu mets un arbitre qui, potentiellement, peut amener ce genre de soucis. Et la réalité, je ne dis pas qu'il a été, évidemment, acheté, certains arbitres, c'est qu'il y a des décisions qui sont sujettes à débat. Pour moi, évidemment qu'il y a pénalty sur Marco Reus, c'est clair. Après, c'est l'histoire des matchs. Mais de mettre cette possibilité, ce grain de sable dans la tête des gens, je trouve ça dingue. La moindre des choses, c'est de regarder le CV des joueurs. Le CV
Il a 18 ans, il est anglais, il débarque, il connaît déjà l'histoire.
Regardes le CV des arbitres, c'est la base.
On l'a expliqué, c'est écrit dans la presse le matin du match déjà. Donc, ça va,
bien sûr. Mais Jean-Philippe, c'est surprenant?
C'est surtout extrêmement maladroit parce qu'on sait très bien qu'à la moindre
erreur
volontaire ou pas, et même dans le choix de suivre les images de la VAR qui montrent qu'effectivement il y a une main, un coup de décollé, même dans cette volontaire, finalement, l'arbitre, plutôt d'arbitrer dans la lettre, dans l'esprit, il va arbitrer dans la lettre, en fait, pour se couvrir de toute critique. Mais c'est pire. En fait, c'est pire à l'arrivée, parce qu'il y a ce soupçon. Et c'est très maladroit de la part de la Ligue.
Et c'est vrai que du coup, ça influe évidemment sur le résultat, puisqu'au lieu d'un match nul, ça devient une victoire.
Dans un premier temps, Annie, l'affaire, c'est quand il y a une quinzaine d'années qu'il est...
2005.
2005, comment un arbitre...
Et c'était le plus grand scandale de match truqué qui a secoué le football allemand.
Il n'est pas radié à vie. Voilà, déjà, ça part de là.
Donc, alors, si on justement, lui permet parce de... qu'ils avaient peut-être trouvé que 300 euros pour le corrompre.
Quand j'ai vu 300 euros, j'étais scotché du monde.
Il y a aussi un peu une crise d'évocation en Allemagne sur l'arbitrage. Ils recrutent assez souvent des arbitres venus d'autres pays pour arbitrer des matchs allemands. Donc, il y a peut-être un paramètre
comme
ça.
Hein, ouais. Il y en a recruté des gens qui ont envie d'arbitrer.
C'est surtout ça.
Qui ne sont pas sujets à 300 euros près pour être corrompus.
En tout cas, deux joueurs étaient particulièrement attendus dans cette confrontation. Évidemment, vous avez deviné lesquels. Ces deux buteurs qui étaient face à face. Alors d'un côté, le Rekordmeister, je ne sais pas si on dit comme ça en allemand, Jean-Philippe, excusez-moi, celui qui a battu le record de Gerd Müller la saison dernière et qui ont considéré donc outre-Rhin, ce que disait le correspondant de RFI hier dans Mondial Sport, eh bien, le ballon d'or de l'année, hein, le Polonais Robert Lewandowski.
Ballon d'or moral.
Moral en tout cas, mais eux le considèrent comme le ballon d'or. Auteur, là, il a marqué son 22e but en 15 matchs de Bundesliga contre le BVB, qui est donc en plus son ancien club. Erling Haaland, lui, finalement titularisé, a marqué le but de l'égalisation, hein, le 2-2. Son 51e but en 51 matchs en Allemagne. Est-ce que c'est retour gagnant pour le Norvégien? Il revenait de blessure. On n'était pas sûr qu'il pourrait jouer le classiqueur. Il l'avait fait rentrer un petit peu la semaine dernière. À la 73e minute, il était déjà rentré en marquant. C'est vrai. Là, c'est pareil, c'est lui qui, au retour de la deuxième
mi-temps... Qui impulse le deuxième but. C'est aujourd'hui... Alors, c'est difficile, on ne peut pas le comparer avec Kylian Mbappé, mais je pense qu'au niveau des stats, ça se vaut. Les deux marquent énormément.
Ils ont le même âge, hein, en plus.
Ils ont le même âge.
Pas
le même style. Mais je lui trouve quand même beaucoup de finesse. Par moment, il a quand même beaucoup de finesse, alors qu'on pense...
Ouais,
alors,
c'est ce qui surprend par rapport à son côté très athlétique.
Il va très, très vite. Je pense que sa masse musculaire, il a vraiment évolué depuis 2 ans. On a vu qu'il a pris du coffre. Et aujourd'hui, c'est une des références. Et que c'est l'avenir avec Kylian Mbappé, ce qui est sûr et certain. Et Lewandowski, c'est ce qui se fait de mieux depuis, pour moi, 4, 5 ou 6 ans maintenant.
Parce que Lewandowski, avec une régularité.
Il met 50 buts par saison depuis 5 ou 6 ans minimum. Et on nous dit, ah ben non, il est polonais, c'est pour ça. Ah bon? Bon, ben alors, donc, d'accord. Okay.
Karine, est-ce que Erling Haaland, quand même, il n'y a pas une drôle de saison, finalement, ou une drôle d'année qui se profile pour lui? Parce que pendant qu'il a été blessé, notamment, la Norvège a été éliminée de la course, de la qualification, même des barrages, pour être à la Coupe du Monde au Qatar l'an prochain. Alors bon, la Norvège à la Coupe du Monde, ce n'est pas tout le temps non plus.
Oui, hein, mais il y a aussi surtout les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Où le BVB a été, Dortmund a été éliminé
récemment. C'est ça en fait le gros problème, parce que lui, il faut qu'il continue à se confronter au meilleur. Et il
a
progressé. Faisait les années précédentes où il marquait quasiment à tous les matchs de Ligue des Champions. Et là, ils vont être reversés en Ligue Europa. La Ligue Europa a honnêtement des équipes relevées, mais forcément, ce n'est pas là où on l'attend, surtout dans un match face à Mbappé, surtout pour son avenir, parce qu'on imagine bien que ça va être la dernière saison à Dortmund. C'est un petit coup d'arrêt pour lui, mais ça ne l'empêchera pas de faire quand même une excellente saison en club et en Ligue Europa. Voilà, si au final, il gagne la Ligue Europa, même s'il y a quand même beaucoup d'adversité, ça sera pas mal. Mais on est quand même déçu forcément de ne pas avoir un Haaland dans Ligue des Champions. On veut voir les meilleurs, donc on veut le voir.
Il y a tout le temps des polémiques sur le Ballon d'Or, mais là... Quasi aujourd'hui, on peut dire qu'il ne l'aura pas en 2022. Non, mais c'est vrai, c'est terrible, en fait. C'est
de toute façon, en étant norvégien, il est mal barré.
Comme
année,
les Polonais.
Une année impaire, peut-être.
Ou les Sénégalais. Voilà,
oui, mais le problème, c'est que là, donc, ça va peut-être être décalé.
Là,
une,
en 2022, donc ça va être compliqué. Okay. Mais déjà, éliminer la Ligue des Champions, c'est aussi le drame de Dortmund, c'est de ne pas parvenir à être... au même niveau de régularité, au plus haut niveau que le Bayern.
À cause de ça,
ils vont perdre leurs joueurs. Oui, mais c'est où est la poule et où est l'œuf. En fait, les joueurs, ils partent aussi parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sûrs d'être l'année suivante, d'être au rendez-vous du dernier carré de Ligue des Champions. Alors que le Bayern l'est quasiment à chaque fois.
Mais pour Haaland, l'année prochaine, il faut une porte de sortie, quoi qu'il arrive, pour avoir une vision. Parce que là, de partout où il est passé, on ne parle que de Haaland. Là, Dortmund, c'est Haaland. Si on regarde le match aujourd'hui, plus que sur un Real-Barça, parce que bon, il n'y a plus que Benzema en face. Au Barça, il n'y a personne, même si j'aime bien certains joueurs du Barça. Mais là, c'était Lewandowski face à ce monstre, ce guerrier, ce Haaland. Et ça a fait la différence. Donc l'année prochaine, il va dans un club comme le Barça, comme on ne sait pas, ou peut-être le Bayern, ça m'étonnerait, parce que là, tu changes un peu ton
dispositif.
Le Bayern
aime bien recruter à Dortmund.
Ouais.
Oui, mais là, tu fais quoi de Lewandowski, même s'il a un certain âge? Donc
Müller qui commence...
Ils ont 15 ans d'écart, pratiquement.
Oui, bien sûr.
En tout cas,
il va falloir succéder à la doublette offensive du Bayern, bientôt.
L'Observatoire du football, le CIES, a publié tout à l'heure la valeur marchande des plus jeunes joueurs actuellement. Et c'est Erling Haaland qui mène le bal devant le Brésilien Vinicius du Real Madrid et Phil Foden, l'Anglais de Manchester City. Et pour avoir Erling Haaland, il faudrait débourser, selon eux, hein, au moins 150 millions d'euros.
Mais alors, ça dépend des années de contrat aussi. Jusqu'alors, Mbappé, il est où là,
jusqu'en juin 2024.
Parce que Mbappé, il est où dans ce
Mbappé, il se trouve dans le top 10, mais je pense que le fait qu'il n'ait plus de contrat, du coup.
Il est libre.
Il parle espagnol.
En janvier, je peux essayer d'acheter Mbappé, moi. Parce qu'il est libre. On peut se proposer. Ben,
à Londres aussi, il y a des rumeurs comme ça que Manchester United aimerait l'avoir. Allez, on continue et on va vers l'Italie.
Il sinistro, la rete.
Et l'Atalanta qui repasse devant. C'est magnifique, le but signé Remo Frohler. Le Napoli avec tous ses absents qui a souffert. L'Atalanta quatrième de Serie A qui recolle au wagon de trois composés de l'AC Milan, de l'Inter Milan et du Napoli.
Et le Napoli descendit du podium après des contre-performances, hein, deux défaites et deux nuls sur les cinq derniers matchs. Le club de Naples n'est donc plus premier du calcio. Les clubs de Milan ont pris les commandes, Rossoneri devançant Nerazzurri, alors que l'Atalanta, tombeur de Naples, eh bien, est quatrième. Un petit groupe de quatre clubs comme ça, détachés. Nous allons y revenir. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonsoir, bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Matteo. Matteo, expliquez-nous pourquoi finalement Naples a dû laisser la place. Est-ce seulement parce que son buteur, le Nigérian Victor Osimhen, s'est encore blessé malheureusement pour eux?
Ben, certainement, il y a une raison qui est liée aux blessures et pas seulement à celle d'Osimhen. Mais deuxièmement, il faut dire que dimanche soir, ils ont affronté une superbe équipe nommée Atalanta qui a fait, à mon avis, le match parfait. Elle a su renverser un score très dur, à un certain moment très difficile. Et donc, bravo à l'Atalanta. Mais dit cela, on peut reconnaître que le Napoli a perdu le sommet du classement en enfermerie plutôt que sur le terrain. Car c'est vraiment une sorte de malédiction qui s'est abattue sur cette équipe. Les trois Africains à KO, mais aussi l'Espagnol Fabián Ruiz et le capitaine Lorenzo Insigne. Cinq éléments fondamentaux dans le jeu de Luciano Spalletti. Et à ce niveau, ça se paye. Le bilan est sous les yeux de tout le monde. Dans les derniers quatre matchs, deux défaites, un nul et une seule victoire. En plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de remplaçants car le club cette année n'a presque pas recruté. On préfère en conserver les effectifs de la saison dernière. Le vrai changement a eu lieu sur le banc avec l'arrivée de Luciano Spalletti qui tactiquement a su renouveler l'équipe, la rendre plus solide et concrète. Mais en ce moment, c'est dur pour le tennis. Elle doit vraiment affronter une situation, SOS sanitaire au sein du club. Donc il doit s'inventer quelque chose de nouveau, aussi des schémas de jeu, comme on l'a vu avec l'Atalanta. Plutôt que le 4-2-3-1, il a choisi un 3-4-3 qui n'est pas dans ses cordes. Donc c'est un boulot très difficile pour Luciano Spalletti, qui reste tout de même confiant, et il l'a répété aussi à la fin du match face à la DEA.
Alors c'est vrai que Naples, on en parlait il y a quelques temps, où on se disait, est-ce que c'est l'année un peu où ils peuvent être en route pour essayer de conquérir le titre? C'est évidemment pas du tout fini. Mais ceux qui sont les premiers en ce moment, c'est le Milan AC. Et l'entraîneur Stefano Pioli, on va l'entendre, est heureux de cette nouvelle passe pour son équipe.
Maintenant, il y a quatre équipes dans le wagon de tête. On savait que le championnat serait équilibré cette année et même qu'on serait peut-être plus nombreux encore en prise directe. Après, le calcio est encore long et il faut rester tout en haut. C'est un moment important. Il faudra rester concentré jusqu'à la trêve de Noël. En plus, on a encore la Ligue des champions et on a encore toutes nos chances. On va donc donner le meilleur de nous-mêmes et essayer d'obtenir bien évidemment le maximum.
Matteo, ces quatre équipes qui sont en fait en tête du championnat d'Italie, elles font le plaisir des tifosi chaque week-end sur leur manière de jouer finalement, un peu loin de ce qu'offrait jusqu'à présent le monopole de la Juventus en tête.
Tout à fait, pour le plaisir des tifosi, le bonheur de la Serie A. Et comme écrit, comme dans un article apparu ce matin sur La Repubblica, ces quatre premières de la classe proposent un football qui régale, un football offensif capable de renverser le score à tout moment, donc aussi surprenant. Et tout cela, ça arrive sans devoir compter sur la Juve, toujours loin du sommet, et qui honnêtement n'est pas si séduisante à voir.
Oui. Karine, vous aussi, vous trouvez qu'il y a un regain finalement d'intérêt peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de suprématie et on ne court pas derrière un leader.
Oui, ah, mais dans le même temps, saison, ça dépendra aussi de qui se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Parce qu'effectivement, ouais. Moi, j'avais l'impression que le Milan avait abandonné cette option huitièmes de finale de Ligue des Champions et allait se concentrer sur le championnat. Et puis finalement, ils vont jouer leur va-tout face à Liverpool.
Un coup d'honneur.
Donc ça va être compliqué dans tous les cas.
Liverpool va faire tourner en plus. Donc,
mais voilà, ils ont cette possibilité là. Mais je trouve que globalement, quand même, le niveau n'est pas quand même exceptionnel. Il y a des équipes qui travaillent bien, comme Sassuolo, comme l'Atalanta Bergame qui a gagné ce week-end. Mais quand on voit sur l'échelle de la Ligue des Champions, la Juventus qui se fait torpiller par Chelsea, et ce n'est pas des petites défaites, c'est du 4-0. Quand on voit aussi parfois les prestations de l'Inter et du Milan, c'est là où ça coince. C'est-à-dire qu'en Serie A, c'est bien, il y a du suspense.
Mais ils ont perdu.
Mais le résultat final, c'est quand même de voir les prestations en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, ça coince.
Je suis d'accord avec ça, c'est plus la Juventus qui a lâché le morceau que les autres qui ont haussé leur niveau de jeu. Ça faisait quelques années déjà que les 2000 ans avaient baissé de pied quand même. Hein. C'était plus les grosses
ils
équipes.
Ils n'avaient plus les moyens, surtout.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Principe de réalité, très clairement. Finalement, ça libère un peu les esprits aussi. C'est-à-dire que les entraîneurs s'amusent beaucoup plus. Il y a peu moins de pression. On lâche un peu comme en Ligue 1, si on lâche les chevaux. Ça fait des matchs plaisants. Mais est-ce qu'ils sont vraiment au très, très haut niveau? Effectivement, Karine a raison. C'est le révélateur de la Ligue des Champions. C'est ça le juge de paix. On va voir jusqu'où ils vont, mais... Ils ont l'air un peu en dessous quand même.
Même si Marc, l'équipe qui est plaisante à voir jouer depuis déjà deux saisons, si je ne me trompe pas, quand ils avaient commencé
l'Atalanta.
En Ligue des Champions, ah,
c'est l'Atalanta. Mais même plus que ça.
Oui, non, mais quand on les a vus apparaître en l'année où ils se qualifient là, c'était vraiment l'éclosion, disons, au niveau
c'est
européen.
Surtout
justement.
Depuis de nombreuses
et
saisons.
Ils vont en quart de finale. Hein.
Que la Juve fait la différence, c'est qu'il y a des clubs, entre guillemets, les deux clubs de Milan, Naples et l'Atalanta, qui va performer derrière, qui va commencer à grandir et mettre en disposition. Voilà, comme l'Inter la saison passée. Moi, j'étais très inquiet par rapport à l'Inter en perdant Lukaku. Je me suis dit, ils perdent un grand buteur, mais encore Lautaro. Mais finalement, ces équipes-là sont au niveau. Ces équipes qui ont perdu que deux matchs et un match, elles perdent très, très peu. Très, très peu, ces équipes-là. Et c'est normal qu'elles soient récompensées. Là, c'est Milan a recruté encore Giroud, a recruté de sacrés joueurs. Et à l'arrivée, ça tient la corde. Et la Juventus, qui pendant une hégémonie de quoi, 7, 8, 9 ans, aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur. Et pour rattraper ce qui a été fait, parce qu'eux ont bossé depuis 4 ou 5 ans derrière, c'est logique pour moi, ils soient devant.
Matteo, on parlait de l'Inter. L'Inter qui se retrouve deuxième grâce à sa victoire. Et alors, c'était une victoire écrasante sur une équipe dirigée par un certain José Mourinho. Matteo, est-ce que José Mourinho serait sur le point déjà de dire addio à Roma, lui qui a vécu, allez, on va dire, une folle journée, une folle 16e journée et un dimanche un peu noir face au Nerazzurri?
Très, très noir. Très, très noir. C'est encore tôt de dire si José Mourinho terminera ou non cette saison à la Roma. C'est une chose est sûre, il est très très fâché. Il espérait vraiment vivre ce match de façon, bien entendu, d'une autre façon. 3-0, ça fait mal en plus avec ce club qui représente son passé glorieux, des retrouvailles après 10 ans et demi. Il n'avait jamais plus affronté l'Inter depuis qu'il l'avait quitté en 2010, donc il était très ému, mais aussi très, très, très tendu à la veille de ce match. Il s'est refusé de se présenter en conférence de presse. La raison communiquée serait celle qu'il a préféré se concentrer sur la rencontre contre l'Inter, mais selon des rumeurs, ce geste-là serait lié à un grand mécontentement contre un arbitrage qui, selon lui, aurait pénalisé son équipe lors du dernier match en semaine face à Bologne. Donc à Mourinho fâché, on l'a vu très avec le visage très crispé pendant tout le match. À la fin de cette défaite, il n'a pas accepté des questions de la part des journalistes, mais c'est lui qui a décidé quoi dire. Il a affirmé que son équipe en ce moment a un niveau offensif nul, pénalisé par les blessures, et que l'Inter en condition normale est plus fort de la Roma et qu'en condition pas normale est encore plus forte. Des déclarations qui ne laissent aucun doute. Mourinho est totalement insatisfait de cette Roma.
Insatisfait,
pardon. Oui.
Jean-Philippe, on a l'impression qu'avec Mourinho, les épisodes se ressemblent.
Ben oui, ça fait quand même maintenant...
Il arrive adulé arrivée au mois de mai.
Le mythe du Special One, il commence à être sérieusement écorné, puisque là maintenant, j'étais en train de compter à 4 expériences décevantes.
Manchester United, voilà. Tottenham, Chelsea.
Voilà, et maintenant on peut ajouter Roma. Et donc, la patte Mourinho qui consiste à avoir des équipes qui fassent très bloc, qui soient solides, complètement concentrées tout le temps. Enfin, moi, ce modèle-là, cette recette-là, elle a l'air de s'émousser, et en particulier face à des équipes qui font du jeu. Et ça, c'est nouveau, parce que le fameux bloc, le catenaccio à la Mourinho, a l'air de plus fonctionner.
Ouais. Matteo, juste pour terminer, la Juventus se replace, elle a gagné 2-0 contre le Genoa. Alors, elle est cinquième, mais on a vu que sur le terrain, c'était pas sans anicroche, notamment entre Morata et le coach. Et en plus, il y a une enquête qui vise 7 dirigeants, et notamment le responsable, le propriétaire Andrea Agnelli.
Et en effet, tension entre l'entraîneur et le joueur, mais sur les tribunes, c'est encore pire. C'est un moment très délicat pour le club, visé depuis une semaine par une enquête judiciaire. Qui a été ouvert par le parquet de Turin pour essayer d'éclaircir une situation liée à quelques transferts assez douteux, 42 en tout.
Notamment celui de Cristiano. Hein.
En effet. Et cette enquête aurait donné lieu à... Et ces transferts auraient donné lieu à des faux montants pour faire cadrer les 2 derniers bilans du club. Chose assez grave, car la Juve est cotée en bourse. Donc, poursuit pour l'instant 7 dirigeants bianconeri, dont le président, vous l'avez dit, André Agnelli, et son vice-président Pavel Nedved, mais aussi l'ancien directeur général Fabio Paratici, aujourd'hui débarqué au Tottenham, est soupçonné d'avoir comptabilisé un montant de plus-value fausse d'environ 322 millions d'euros.
Ça arrive. Non, on peut faire des erreurs.
Non, mais la Juventus, plus dur et le quotidien du côté de la vieille dame. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en ligne avec nous, et on reviendra évidemment vers la Serie A. À bientôt.
À bientôt, merci.
Allez, nous, on se dirige vers le nord de la France.
Alors que Lionel Messi reste au sol, touché dans ce contact, et M. Le Texier demande à tout le monde de jouer. La frappe de Fofana, cette fois-ci c'est de l'eau, c'est de Fofana.
Ils ne sont que cinquièmes au classement du championnat de France, mais leur jeu séduit bien au-delà de leurs si nombreux et fidèles supporters que vous entendez chanter ce refrain si populaire à Bollard, le refrain de « Au nord, c'était les corons ». Les sang et or...
Pierre
Bachelet. Oui, exactement, avec lui qui entraîne tout le monde. Les sang et or ont presque donc réussi à battre les Parisiens samedi soir. Ils ont été rattrapés à la 92e minute, Wijnaldum répondant finalement à Fofana. Leur prestation a incité Marco Verratti, de retour dans l'équipe du PSG, à vanter le jeu du RC Lens.
C'est une équipe qui joue en façon très particulière. Ouais. Je l'aime beaucoup parce que c'est une équipe qui a beaucoup de courage et ça fait du bien. Ça fait du bien des matchs comme ça parce que je pense que c'était un match, on dirait un peu à l'anglais, avec beaucoup de rotations d'un part et de l'autre. On félicite l'équipe de Lens, mais aussi notre caractère qui, jusqu'à la dernière minute, bien sûr, on voulait gagner, mais c'est dur.
Un petit Marco Verratti qui parle français dans l'effectif. Les Lensois, Karine Galli, alors largement au-dessus des stars parisiennes.
Ah bah oui, oui, oui. De toute façon, même si le résultat, c'est un but partout, au fond, c'est une victoire lensoise par rapport au contenu, par rapport à ce qu'ils nous proposent, par rapport aux louanges qui sont faites sur le travail de Franck Hez, mais pas que depuis cette année.
Il a envie, Marco Verratti, finalement, d'avoir les mêmes...
Il peut signer à Lens, attention. Ouais. Non, mais ça, attention, mais ce qu'il a dit.
L'an dernier, c'était la même chose. Et en Ligue 2, c'est aussi ce jeu-là qui était prôné par Franck Hez quand il a repris la tête de cette équipe. Mais c'est très bien d'avoir des équipes comme ça qui produisent du jeu, qui sont collectives, qui font grandir des joueurs, qui en relancent certains comme Fofana. Et après, c'est mignon ce que dit Marco Verratti. Oui, c'est une équipe qui a du courage et tout. Il fait les louanges de l'adversaire. Mais encore une fois, si Marco Verratti ne nous faisait pas du Marco Verratti, c'est-à-dire à pester, etc., au lieu de s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain, son équipe aurait pu peut-être rendre une autre copie. Mais... il y a l'égalisation de Wijnaldum, mais ça n'efface en rien la prestation insipide des Parisiens et la super partition collective des Lensois. Le score ne reflète pas ce qu'on a vu sur le terrain.
Marc ?
Je suis. Je trouve que. Alors, oui, Paris ne nous montre pas son meilleur visage, mais il ne faut pas oublier quand même que sur la première période, Paris, en étant pas dans les meilleures conditions, l'ECA sauve deux fois Lens. Autrement, il peut y avoir 1-2, c'est-à-dire qu'ils peuvent, Lens peut perdre 2-1.
Ouais. Lec a fait. On va venir sur Fofana, mais effectivement, Jean-Louis Lec.
Lec a été exceptionnel. Donc, en trouvant, comme on le voit depuis le début, un Paris qui est quand même très moyen, on a ce moment-là où, tac, il y a le coup d'éclat, il y a Icardi cette tête, où il peut y avoir. Il y a Messi, le poteau, n'oublions pas ce petit poteau, il ne se passait rien, il a accéléré, il a fait un poteau. Là, Lec, sur le coup, il ne bouge pas. Donc, c'est vrai que cette équipe de Paris n'a pas forcément besoin de forcer. Alors, elle est un peu dans le dur, c'est vrai, parce que pour moi, certains joueurs ne font pas les efforts à un moment donné. Lui, Verratti, sur ce match-là, c'est bien parce que ça lui plaît. Il a pris son carton jaune, il a mis des coups, il a pris des gifles, il a mis des gifles. Donc, tout va bien, donc ça lui fait plaisir. Mais après, on voit vraiment que dès qu'il est rentré. Mbappé. Après, c'est un autre match. Mais avant ça, pour moi, le nul est presque logique. Parce que Paris, à la mi-temps, s'il rentre à un partout, il n'y a presque rien à dire. Il y a ce, enfin, un partout, 1-0. Et après, il y a ce but, cette erreur de Navas. Mais voilà, donc c'était un très bon match. On s'est éclaté. C'est vrai que Lens a manqué à un moment donné de mettre le deuxième, voire le troisième but, parce qu'il y a des actions qu'il faut bien gérer. La dernière passe, ça a mal été géré. À l'arrivée, ben, ça fait un partout.
On va parler de la méthode Franck Hez, qui impressionne donc depuis, hein, c'est sa deuxième saison. Et c'est vrai que ce qu'il
en
fait
Ligue 1, avec... il était déjà en là en Ligue 2.
Oui, c'est sûr. Lui qui a fait monter.
Oui, oui, non, mais avec le RC Lens.
C'est une façon un peu particulière d'ailleurs. On était, puisqu'ils sont montés, il faut rappeler, Lens est deuxième au moment où les championnats sont interrompus en raison du Covid. Donc ils montent à cause de ce classement, mais le championnat n'est pas fini en fait. Donc c'est assez spécial parce
ça
que
se joue, tu sais que ça joue un pénalty à Ajaccio.
Voilà, c'est ça.
La fameuse histoire du pénalty d'Ajaccio.
Donc c'est un peu, on ne sait pas trop si c'est mérité. De toute façon, il n'y avait pas de champion. Enfin voilà, c'est donc on avait une incertitude là-dessus.
En tout cas, il n'a pas vraiment un effectif de star, même si il a parmi ses joueurs eh bien le prix Marc-Vivien Foy de l'année dernière, hein, Gaël Kakuta, et puis d'autres joueurs bien sûr et qui complètent cet effectif. Il y a eu donc on trouvait deux hommes dans le match, hein, non seulement Jean-Louis Lec. Le gardien, mais
il
aussi.
Il était pas mal chahuté ces derniers temps parce qu'il n'avait pas été toujours impérial. Toujours et là, bon. Il a été le cas.
Ouais. Et Seko Fofana, l'homme du match, lui aussi, et surtout le buteur du match. Écoutons-le.
Je pense que c'est l'un de nos meilleurs matchs. Voilà, il faut prendre les choses positives. Mais à titre personnel, moi, je suis un peu déçu parce que j'estime qu'on devait gagner ce match. Ils ont eu des situations, on a eu d'autres situations. On a vu Kylian Mbappé rentrer et en 10 minutes faire la différence. Donc. Voilà, ça reste des grands joueurs et ce soir, je pense que nos supporters, ils sont fiers de nous, notre entourage, nos familles qui sont venus voir le match, donc c'est le plus important. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe, donc c'est une fierté ce soir d'avoir montré à tout le monde de quoi on était capable. Maintenant, on doit se servir des choses positives ou négatives pour pouvoir avancer. Hein.
L'une des meilleures équipes d'Europe, mais on se souvient que l'année dernière, en plus, en début de saison, les Parisiens avaient perdu à Lens.
Enfin, ils avaient surtout perdu à Ibiza. Si je me souviens bien.
Aussi, c'était juste avant le Covid.
Allé chercher le Covid est bizarre.
Après la finale perdue de Ligue des Champions.
Non, mais ce qui est intéressant dans cette équipe de Lens, c'est que d'abord, ça n'est pas jamais été un petit club. Hein, Lens, il faut aller à Bollard.
C'est un très grand club,
tout le
bien
monde
sûr.
Le sait.
Une ambiance de fou.
Il a été repris par un propriétaire qui est loin d'être un inconnu ou quelqu'un qui sort de nulle part, parce que Joseph Gourlian, qui est le patron du FC Lens aujourd'hui, est le président du fonds Amber. C'est un fonds d'investissement très, très, très puissant. Donc c'est il vit en Angleterre. Enfin, c'est, mais c'est pas un oligarque. C'est pas quelqu'un qui met de l'argent d'un seul coup pour changer la tête d'un club. Il s'est inspiré dans les valeurs. Enfin, il a laissé les valeurs du club. Ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il est allé, au début quand il était allé à Lens, les premières fois, il est allé en tribune. Et depuis, il va très souvent en tribune. Il préfère vivre les matchs avec les supporters. Il savait pas. Je pense qu'il faisait un investissement au début. Et il est tombé amoureux de ce club vraiment. Et il le respecte et il laisse ses valeurs. Et je pense que sur le match de... Effectivement, je suis d'accord avec Marc. À l'arrivée, le nul est justifié. Mais Lens a tellement donné plus que le PSG. A été tellement plus collectif. A montré tellement plus de cohésion qu'on a envie que ce soit presque
le Lens qui gagne, voilà. Mais malheureusement, il y a une réalité.
Maintenant, ils sont limités, mais c'est, d'une certaine façon, c'est un club qui se construit, il a du temps, et c'est intéressant de voir cette progression. C'est-à-dire d'abord s'imposer en Ligue 2, et le profil de Franck Hess, qui est typiquement un entraîneur, un ancien joueur de Ligue 2, voire de National, voilà, il a entraîné en Ligue 2, mais c'est pas une superstar, c'est pas, voilà, c'est, il a pas fait venir Mourinho pour relancer Lens. Donc il prend du temps, et c'est intéressant cette cohésion, si ça peut durer, ça peut devenir tout à fait intéressant dans les prochaines années, parce que là, il y a du répondant, hein, Lens. Hein, s'il y a des résultats, s'il faut un peu de Coupe d'Europe ou des choses comme ça, ça va bouger.
On sent une méthode sans prétention, je dirais. Il y a une régularité de Lens, déjà, on se souvient l'année dernière, hein, Karine, ils ont fini aussi dans les premières équipes. On sent qu'il y a un travail de fond, en fait, sur cette équipe.
Oui, c'est une équipe
qui est intéressant. Alors, dans l'esprit du club, mais en plus...
Non, mais c'est une équipe qui presse énormément, qui se projette très vite vers le but, qui permet à certains joueurs d'éclore même tard. Mais tu vois, Sotoka, ben, c'est un bonheur en Ligue 1. Tu vois, Fofana, il est venu à Lens pour se relancer. T'imagines bien que l'an prochain, il sera plus là. Mais
Klos,
en tout cas,
Klos
il fait
aussi.
Table. Jonathan Klos, il est éblouissant dans son couloir. Bon, j'y crois pas du tout en équipe de France parce que c'est pas le genre de Didier Deschamps de prendre des gens qui sont dans des clubs voilà d'un standing inférieur qui jouent pas la Coupe d'Europe etc. Mais il est au rendez-vous. Kakuta, on sait que c'est un bon joueur, c'est juste la régularité qui fait qu'il a pas eu une autre carrière. Mais c'est une des équipes qui joue le mieux clairement en Ligue 1 avec les Rennais. C'est un collectif, c'est toujours la même chose et ils se renient pas par rapport à l'adversaire. C'est ça qui est plaisant. Quand ils vont à Marseille au Vélodrome, c'est un match de dingue et ils gagnent 3-2. Ils auraient pu le perdre 3-2. Mais ils gagnent 3-2, et ils reçoivent Paris, c'est pareil, c'est pas une équipe qui s'adapte à l'adversaire, c'est une équipe qui propose son jeu, qui le déploie, qui met une pression de dingue et qui a des résultats très très bons.
Marc, Seko Fofana, une des chevilles ouvrières, hein, déjà la saison dernière, on était beaucoup impressionnés par son style et son jeu, international ivoirien, et qui a dit un peu ou fait comprendre qu'il préférait se dédier à son club et à sa carrière, donc plus qu'à sa sélection. A priori, il n'est pas allé au dernier match de qualification de la Côte d'Ivoire.
Ouais, lui aussi, comme d'autres joueurs qui sont en train de faire ça, est-ce que par rapport à la CAN qui arrive, ils ne voient pas trop d'intérêt à aller jouer la CAN avec leur pays? C'est encore particulier. Après, c'est vrai que la plupart des gens découvrent Fofana. C'est vrai que ça fait quand même bientôt 3 saisons qu'il est quand même très bon. Moi, si je suis un club anglais, même un club relégable comme Newcastle qui va arriver avec de l'argent, quand je vois Fofana box-to-box, qui est capable de prendre le ballon, d'accélérer, de le mettre dans les 20 mètres et faire un décalage sur le côté, alors bon ou pas bon, ben je me dis que peut-être ce joueur-là peut atterrir dans un de première ligue. Donc on va voir si en janvier, ce qui peut se passer pour lui, parce que c'est vrai, il y a encore un contrat. Mais moi, je suis Fofana, je me régale à Lens. S'il y a une porte de sortie, je ne vais pas en France, je traverse juste en face de l'autre côté. Parce que pour moi, il a le jeu aujourd'hui, il a peur de rien, il va au combat et il est capable, pour moi, d'être un Moussa Sissoko que l'on peut voir aujourd'hui à Watford, qui est encore très bon, même si Watford va mal.
Dans ce championnat de France, il y a eu aussi les Verts, désormais orphelins de leur entraîneur. Alors ça là, depuis hier soir, depuis surtout la nouvelle déroute des Verts de Saint-Etienne giflés dans leur chaudron par le Stade Rennais. 5-0, c'est la plus lourde défaite de la saison, mais c'est aussi la troisième consécutive, puisque c'est la troisième en 3 matchs joués en 8 jours. La 9e défaite de la saison en 17 journées. Les dirigeants ont donc mis fin au plein pouvoir de Claude Puel. Est-ce que c'était malheureusement une fin annoncée, Marc Lebras?
Oh, c'était assez prévisible, mais c'est qui les dirigeants? Qui est dirigeant? Je ne sais plus qui est dirigeant.
Alors, c'est des dirigeants qui ont mis le club en vente, mais pour l'instant, ils sont toujours propriétaires. Donc, c'est toujours Kayasso et Romeya.
Non, mais traite de plaisanterie, c'était presque logique. Est-ce que Puel ne paye pas aussi son arrivée où il veut faire la révolution et mettre des historiques? Quand on parle de Ruffier, qui était quand même le gardien du Temple, un joueur emblématique qui, pour moi, je le voyais finir et être entraîneur des gardiens. Enfin, je le voyais vraiment. Bon, ça s'est très mal passé. Il a mis des joueurs un petit peu dehors. Il a des joueurs comme Kazri, Boudbouz, il les a mis aussi à écarter. Puis maintenant, c'est ces joueurs-là qui lui ont repermis de gagner quand même un petit peu des points. Enfin, un petit peu, je veux dire. Et qui, oui, sont peut-être, qui sont peut-être les seuls qui se bougent un petit peu. Après, tout le reste, c'est très difficile. Il envoie des gamins au charbon, des jeunes joueurs. Il les met, il en prend 5. Qu'est-ce qu'on fait là, à ce niveau-là ? Le gamin, il n'est pas nul, le gamin. Ces gamins-là qu'on a mis en avant sur différents matchs, c'est que c'est trop tôt. C'est que l'équipe ne tient pas la route. Donc, il y a un projet qui est bancal dès le départ. Vous savez, vous démarrez la saison. Attends, mais attends, il y a un président qui va arriver. Normalement, il doit prendre un entraîneur immense. Mais en fait, c'est que des mots, c'est que des paroles. Donc, en fait, on construit sur rien. On part à volo. Ben, on espère que. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'il se passe rien.
Dernier du championnat. Hein,
non, mais c'est toute la différence entre le projet sur le papier et la réalité. Le but à Saint-Étienne, et c'était séduisant sur le papier, c'était de refaire ce qui avait été fait à Lille. Il y a du temps
de reprendre un
avec un triumvirat et puis une formation de jeu avec des jeunes et de repartir, enfin, ouais, mais voilà. Et sauf que en fait pour ça il faut en avoir les moyens, donc avant qu'un centre de formation donne le maximum, bah il faut que plusieurs années, et encore faut pas se tromper, et Puel il a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il s'est séparé des anciens, il s'est coupé des anciens, et puis il s'est retrouvé avec des tas de blessés, des joueurs qui étaient pas prêts. Et puis
il s'est mis le vestiaire à dos. Hein.
Voilà, bien sûr. Et bon courage à son successeur, parce que là, il va y avoir la CAN et il y a au moins 5 joueurs qui vont partir. Donc, ça va être compliqué.
Karine, Saint-Étienne, dernier du championnat de France. Ils ont donc 9 défaites en 17 journées. Est-ce que vous croyez que Saint-Étienne est condamné à la descente ?
Non, je dirais pas encore.
Ou
parce
un sauveur
avant,
peut encore leur tendre la main. Là.
Oui, parce qu'avant cette débâcle 5-0, il y avait quand même des résultats dans le contenu qui étaient intéressants. Il y avait même eu la première victoire face à Clermont, et il y avait eu des bonnes choses où ils ont arraché des matchs nuls, etc. Donc, quand on voit le bas de classement qui est extrêmement serré, ils peuvent encore se sauver. Mais oui, ce que je regrette, moi je regrette toujours quand un entraîneur quand même est suspendu.
C'est
après
le premier de la saison,
voilà,
en
17e journée, on a attendu. Après, ça lui pendait au nez depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'en fait, je ne comprends pas qu'on prenne un entraîneur comme Claude Puel qui est là pour faire de la formation, pour modeler les joueurs comme il veut, sachant que lorsqu'il est arrivé, il y avait déjà des joueurs aguerris de la Ligue 1 avec des salaires colossaux et qu'ils n'allaient pas partir, les mecs. Donc en fait, tu les mets au trou, comme le dit Marc, mais c'est pas la faute des joueurs, et c'est pas jouable parce que avec de tels salaires, il y a un moment tu les refais jouer parce qu'il y a une pression, parce que les jeunes n'arrivent pas tout de suite à avoir des résultats et tout. Donc en fait, je comprends pas à la base pourquoi tu prends un entraîneur comme Claude Puel alors que tu sais très bien son tableau de bord pour travailler, si tu n'as pas le projet qui va avec. Claude Puel, pour moi, est un bon entraîneur, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait par rapport à ce qu'il voulait. Et vu que Claude Puel est quelqu'un qui ne lâche pas,
assez entier,
au bout d'un moment, forcément, on
en
arrive à une situation comme ça. Mais honnêtement, j'espère que les entraîneurs qui sont en danger, les autres, vont être encore soutenus par leurs dirigeants, parce qu'on a vu les dernières saisons des paniques à chaque fois où les entraîneurs étaient limogés et tout. Si on avait eu ça cette saison, peut-être que Michel Derzakarian aurait été viré. Il a dû attendre le match face à Monaco pour avoir son premier succès en Ligue 1. Et depuis, il a fait 6 victoires. Donc j'espère que les entraîneurs...
Lorient,
qui sont,
Pélissier,
voilà,
ouais.
J'espère que les Pélissier, les Gastien, les Antoine, Tonetti, ouais, avec Metz, seront
Bordeaux,
soutenus.
Petkovic.
Après Petkovic, on ne sait pas si entraîneur de club, c'est vraiment ce qui lui convient. Ouais, et tout.
Puis en interne, c'est compliqué aussi à Bordeaux.
Voilà. Ouais. J'espère que les entraîneurs qui ont déjà prouvé, Gastien en Ligue 2, c'est un bon entraîneur. Là, ça tourne mal. Antonetti, il a fait des belles choses à Metz. Pélissier, on sait que c'est un bon entraîneur et tout. Ils seront soutenus parce que c'est qu'avec du temps que tu arrives à relever une situation complexe. Derzak, il pourrait être chômeur aujourd'hui alors qu'on sait que c'est un bon entraîneur et on lui a laissé le temps de gagner avec Brest alors que c'était très compliqué au début.
En tout cas, les Verts, c'est vrai qu'il y a cette mise en vente du club, mais il n'y a aucun signe vraiment convaincant.
Tous les voyants sont en ton rouge.
Ouais. Et pas au vert.
Et pas au vert, ouais.
Merci beaucoup, Jean-Philippe, et merci... Marc Libra, merci aussi Karine Galli.
Merci.
C'est la fin de ce Radio Foot International, préparé donc avec David Finzel et avec Laurent Salerno. On vous donne rendez-vous demain. Demain, n'oubliez pas, soirée spéciale Ligue des Champions sur l'antenne de RFI.
Il n'y a pas l'OM qui joue, non.
Non, demain.
Non, soir, non.
C'est jeudi. Hein, mais y a pas de
non, mais ils
ne
vont pas jouer non plus. Il ne faut pas les faire jouer.
Demain, donc, rendez-vous avec l'équipe du service des sports. Mais avant, bien sûr, il y aura Radio Foot International pour vous présenter les matchs de Ligue des Champions. Merci à tous et à demain. Autour de la